Une semaine d'actualité. François Mazet.
Bienvenue dans Une semaine d'actualité, épisode du samedi 27 août. À la une, on vous en parle bien sûr depuis ce matin sur RFI, l'élection présidentielle au Gabon, mais aussi un djihadiste malien devant la Cour pénale internationale, des chars turcs en Syrie ou encore cet accord historique pour la paix en Colombie. Je salue d'abord mon invité Arnaud Vivian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique littéraire, écrivain, vous venez de coordonner un recueil de nouvelles de politique fiction, ça s'appelle 2017, l'élection improbable, et vous êtes aussi rédacteur en chef du trimestriel Charles, dont le numéro estival est consacré au racisme en politique. Alors vous l'avez compris, dans cette première partie d'une semaine d'actualité, nous allons principalement aborder la politique française. Le mois d'août n'est pas encore terminé, qu'une date est déjà dans toutes les têtes. Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud Vivian, le 7 mai 2017 ?
Je crois que c'est le premier tour de l'élection présidentielle, ou le second ?
Le premier, c'est le 23 avril, voilà. Le second, le 7 mai. Alors je vais vous demander de vous mouiller. Qu'est-ce que vous voyez en finale le 7 mai ?
Oh là là, ça c'est vraiment la question piège. Parce que je crois qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce recueil, l'élection improbable, c'est à se demander s'il y aura cette élection présidentielle tellement elle, vous savez, c'est comme les bébés, quoi. Ça s'annonce mal. C'est mal positionné. On en parlera tout à l'heure, mais parce qu'il y a un dysfonctionnement total de la démocratie. D'une façon mondiale d'ailleurs, on pourrait le dire la même chose pour les États-Unis par exemple, mais ça marche aussi pour la démocratie française. Il y a un dysfonctionnement des principes de base.
Vous mouillez pas là, vous avez pas donné de nom.
Oui, non, j'ai pas donné de nom effectivement.
Alors en tout cas cette
Hollande,
semaine
Marine Le Pen.
Hollande Marine Le Pen, voilà, le pari est pris. En tout cas en cette semaine de rentrée politique où les rendez-vous, les rencontres, les meetings, les universités d'été, on appelle ça comme on veut, se succèdent sur tous les échiquiers politiques, les ambitieux se font connaître. Il faut dire qu'avec le processus des primaires, à droite, au PS, chez les écologistes, la campagne électorale tient plus de la course de fond que du sprint. Alors parmi ceux qui ont épinglé leur dossard cette semaine, il y a Nicolas Sarkozy, pas franchement une surprise, hein, tant il était dans les starting blocks depuis des mois. L'ancien président a sorti mercredi un nouveau livre, « Tout pour la France ». Il a quitté la présidence du Parti Les Républicains pour devenir le 13e candidat déclaré à la primaire de la droite. Et il a rassemblé mardi après-midi des soutiens dans son quartier général flambant neuf. Marine de la Moissonnière y était.
Merci beaucoup.
Beaucoup d'encouragement à la sortie de ce qui se voulait une démonstration de force. Une soixantaine d'élus ont répondu à l'appel de Nicolas Sarkozy, dont Guillaume Pelletier.
Il a dit « Je ne me suis jamais senti aussi libre et fort de mes expériences réussies ou ratées ». Il nous a donné d'ailleurs un mot d'ordre. Il ne nous a pas parlé des concurrents. Il ne nous a pas parlé même de François Hollande et de Manuel Valls. Il nous a parlé de la France. Il a conclu par trois mots « La France, la France, la France ».
Nicolas Sarkozy a déjà réussi un beau coup. Deux anciens fillonistes ont rejoint ses troupes, Philippe Goujon et Pierre Lelouch, présents à la Réunion. Ce dernier ne s'est pas privé d'expliquer pourquoi il a changé de camp.
Si c'était pour une histoire d'opportunisme, je serais rapproché d'Alain Juppé, non ? Nous avons un désaccord de fond avec aussi bien Alain Juppé que François Fillon sur la question de l'islam en France. Et sur la base des discussions que j'ai eues avec chacun des candidats au fil des derniers mois, je pensais que ma place était avec Sarkozy. Et on va voir.
Reste maintenant le plus difficile pour Nicolas Sarkozy, convaincre les Français. Selon une étude réalisée par l'Institut Elabe après l'annonce de sa candidature, 79% des sondés ne veulent pas de lui comme prochain président.
Et oui, Arnaud Vivian, un ancien président, un nouveau candidat, c'est une première en France. Est-ce que, selon vous, Nicolas Sarkozy a les moyens d'aller au bout ?
Oui, bien sûr. En tout cas, on connaît Nicolas Sarkozy, il a une énergie absolument incroyable. Le fait de devoir remonter cette pente qui est énorme, hein, mais qui est à peu près la même que connaissait Jacques Chirac. Donc on sait que c'est possible. Jacques Chirac avait le même nombre de mécontentements au départ et il est devenu président de la République.
Vous méfiez de l'animal politique ?
Ah oui, bien sûr, oui. Tout le monde s'en méfie. Il est redoutable, ses réseaux sont redoutables. Il a une expérience à ce niveau-là. Je pense que Juppé doit craindre pour ses abattis. Ça va être une guerre impitoyable et sans doute très basse. Très basse. On imagine que ça va se passer pendant les primaires, mais c'est faux, ça. C'est pas les débats des primaires qui vont être décisifs. C'est ce qui va se passer entre.
On a parlé la semaine dernière d'une autre candidature ici même, celle de Benoît Hamon à la primaire socialiste. Quelques heures après la diffusion de l'émission, Cécile Duflot s'est lancée dans celle des écologistes. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, c'est Arnaud Montebourg qui s'est déclaré. L'ancien ministre a annoncé dans son fief bourguignon qu'il ferait redécoller l'économie française. Il a détaillé son programme. En revanche, sa participation à la primaire du PS est encore incertaine, nous expliquait alors Julien Chavanne.
Sur le principe, il n'a rien contre la primaire. Il revendique d'ailleurs la paternité de celle de 2011. Mais cette fois, c'est une autre histoire. Pour Arnaud Montebourg, le compte n'y est pas. Avant d'y aller, il veut que le scrutin soit le plus large possible. 11 000 bureaux de vote, comme il y a 5 ans, bien loin des 4 à 5 000 évoqués par la direction du PS. Arnaud Montebourg craint que seuls les adhérents les plus engagés y participent et que cela favorise le président sortant. Autre condition, il demande un chef du PS impartial. Là aussi, il y a du travail. Hier dans la presse, Jean-Christophe Cambadélis s'ironisait sur la multiplication des candidatures à gauche façon Pokémon. Pour l'instant, ne rien dire sur ses intentions lui donne plusieurs avantages. Arnaud Montebourg garde un moyen de pression sur le PS et reste au-dessus de la mêlée. Et puis il est suffisamment connu, visible dans les médias pour faire cavalier seul au moins quelques mois. Surtout, il occupe l'espace laissé encore vacant par le chef de l'État qui ne se déclarera pas avant le mois de décembre. D'ici là, le chantre du Made in France va enchaîner les interventions dans les médias et les déplacements et certainement attendre le dernier moment pour se décider. Les postulants ont jusqu'au 15 décembre pour déposer leur candidature.
Et justement, Arnaud Montebourg a précisé depuis qu'il se donnait jusqu'au 15 décembre pour déterminer s'il serait candidat dans le cadre de la primaire du PS ou en dehors. Arnaud Vivian, une candidature Montebourg, une candidature Mélenchon, une candidature écologiste, sûrement Cécile Duflot dans ces conditions. Alors vous m'avez dit Hollande, Marine Le Pen, mais avec toutes ces candidatures à gauche, par rapport à François Hollande, on se dit que ça va quand même être difficile d'avoir un autre duel que le candidat de la droite contre Marine Le Pen.
Comment dire, là, vous voyez bien comment on est dans la plus totale incertitude. Je parlais tout à l'heure, en début d'émission, de dysfonctionnement démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Il faut comprendre comment on en est arrivé là exactement. C'est que il y a eu une tentative, on peut parler quasiment d'une espèce de putsch démocratique des deux grands partis, c'est-à-dire à l'époque celui qui s'appelait encore l'UMP et le Parti Socialiste, pour créer un bipartisme en France. C'est-à-dire qu'il s'agissait de moderniser la vie politique et d'arriver à une forme, disons, anglaise de démocratie avec deux grands partis hégémoniques. Ça a raté. Ça a raté puisque, précisément, le Front National est arrivé comme une espèce de troisième voie, de troisième grand parti qui fait que le bipartisme n'a pas fonctionné. Or, les primaires ne fonctionnent que dans un cadre de bipartisme. Donc, vous voyez bien, là, lorsque Arnaud Montebourg dit « je ne sais pas si je vais aller à la primaire », on n'est pas obligé de participer à cette compétition. Je vois aujourd'hui que Michèle Alliot-Marie a décidé de se présenter comme candidate à l'élection présidentielle sans passer, elle, par les primaires de droite. Passons sur le fait que c'est quand même tout à fait étonnant que quelqu'un comme Michèle Alliot-Marie, qui, souvenez-vous, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur, en pleine révolution tunisienne, soutenait Ben Ali. Et on sait pourquoi elle soutenait Ben Ali. On sait, ça a été prouvé qu'elle avait bénéficié de certaines faveurs de la part de ce dictateur tunisien. Aujourd'hui, tout ça est effacé, elle se présente. Il y a quand même là quelque chose d'une espèce d'impunité, même dans la propre tête de ces gens-là, qui est absolument extraordinaire. Tout ça pour en revenir à ce processus des primaires, ça ne peut pas fonctionner hors du bipartisme. Et donc là, on voit, c'est de briques et de broc. Si Montebourg se présente pas à la primaire, tout ça n'a aucun sens, vous comprenez bien. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question aussi du financement de la vie politique, car il ne s'agit pas simplement d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est aussi d'avoir le financement de façon à pouvoir faire des meetings, imprimer des tracts, etc. Il y a un financement de la vie publique et c'est très compliqué dans le cadre de la présidentielle.
Est-ce que ce n'est pas un échec quand même de François Hollande de voir toutes ces candidatures se multiplier, un de ses grands échecs finalement?
Le grand échec de François Hollande, le grand échec de tous ces hommes et femmes politiques, c'est d'avoir refusé de transformer la Constitution française. C'est une Constitution qui a été faite à une époque des partis politiques, justement, c'est une Constitution des partis, à une époque où le Parti communiste pesait 25% d'intention de vote. C'était un immense parti. Et vous voyez bien que les partis politiques aujourd'hui sont des coquilles vides. Il n'y a plus de militants, le Parti socialiste n'a plus aucun sens. Vous pouvez avoir un ministre de l'économie d'un gouvernement de gauche qui vous dit, j'ai l'honnêteté de vous apprendre que je ne suis pas socialiste. Donc vous voyez bien comment tout ça, voilà, ce sont des mots qui n'existent plus. Socialisme, plus personne n'est capable d'en donner la définition. À partir de là, la première chose qu'aurait dû faire un président de la République digne de ce nom, c'est de transformer la Constitution. Ça n'a pas été fait, et donc l'échec, il est là d'abord. C'est un échec politique. La crise, on parle toujours de la crise française, on parle toujours d'une crise économique, mais la vraie crise, elle est éthique et politique.
Il y a un vrai changement d'époque aussi, parce qu'en 1988, François Mitterrand, avec un bilan pour le moins contrasté, n'avait pas été finalement tant que ça contesté dans son propre camp. Il avait pu être le seul candidat, en tout cas socialiste.
Oui, alors il a été très aidé par le phénomène de la cohabitation, c'est-à-dire que à l'époque et Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Jacques Chirac, Premier ministre, l'ont bien aidé. Souvenez-vous, c'est quand même l'époque où Charles Pasqua faisait une exposition de pornographie interdite. Enfin, tout ça paraît totalement surréaliste, et donc ils ont joué ça dans un numéro de Charles. Jack Lang l'avait très bien raconté, cette réélection de François Mitterrand. Ils ont joué sur la jeunesse. Or, là, je pense que le problème de François Hollande, c'est qu'il n'a pas la jeunesse avec lui.
D'ailleurs, dans les éditos de votre revue Charles, eh bien, ces éditos sont signés François Mitterrand. Vous vous inspirez de ses écrits, de ses discours, des biographies et d'autres ouvrages sur l'ancien chef de l'État. Pourquoi Mitterrand? Est-ce qu'il a représenté quelque chose de particulier pour vous?
Ah oui, bien sûr. C'est vraiment... pour moi, c'est le... Non, j'exagère parce que je pense que Jacques Chirac est un homme aussi extrêmement cultivé, mais pas exactement de la même culture. Lui, son maître à penser à Jacques Chirac, c'est Claude Lévi-Strauss. Il fait partie de cette époque où finalement la dimension humaine est passée par l'ethnologie et notamment par les écrits de Claude Lévi-Strauss. Mais François Mitterrand est un littéraire. Je crois que c'est le dernier grand homme politique littéraire et qui a vécu sa vie comme un roman. Par ailleurs, on s'appelait Charles, et donc on avait peur d'être un peu accusé de gaullisme sous-jacent, et donc on a pris le meilleur ennemi de Charles de Gaulle, François Mitterrand, pour faire l'édito de notre revue.
Donc Charles et François sont deux prénoms qui vont bien ensemble. Alors François Hollande, lui, est en grande difficulté, hein, il songe tout de même à une nouvelle candidature. Pour lui, tous les moments de détente sont les bienvenus en ce moment, comme mardi lorsqu'il a accueilli les médaillés français des Jeux Olympiques, et apparemment, eux ont été charmés par le chef de l'État. Ils l'ont dit à Alexis Bédu à la sortie de l'Élysée.
Une réception, une photo de famille dans la cour de l'Élysée et surtout les félicitations de la part du chef de l'État François Hollande. La judokate championne olympique Émilie Andéol était ravie en sortant de cette visite.
Voilà, il nous a félicité pour notre record de médaille. Il était fier de notre engagement, des valeurs qu'on a véhiculées pendant les Jeux, des mots qu'on a eus aussi, parce qu'on a eu des mots pour bien sûr notre victoire, mais aussi pour la France. Donc il était très fier de nous par rapport vis-à-vis de ça. Et même il a eu un mot pour les non-médaillés, parce que pour leur engagement, malheureusement, voilà, ils ont fini au pied du podium. Pour moi, après, il y a eu un petit mot encore de félicitations et de mon engagement sur le tapis. Et voilà, il était content.
François Hollande content pour la délégation tricolore. Le président de la République s'est même prêté au jeu des selfies avec notamment les kayakistes en bronze, Gauthier Clos et Mathieu Péché. Des attentions qui ont plu à Élodie Clouvel, la pentathlète vice-championne olympique à Rio.
C'est un rêve qui s'est réalisé, c'était fabuleux. Il a pris du temps pour nous, on a discuté. Et c'est incroyable pour mon sport parce qu'il a regardé le pentathlon moderne et je suis trop fière pour ça parce que mon sport, il est en train de prendre une autre dimension et c'est génial pour mon sport.
Une journée extraordinaire pour les athlètes français qui leur aura peut-être servi à réaliser que ce n'est pas un rêve. Ils sont médaillés olympiques.
La France qui a fini dimanche dernier ses JO de Rio à la 7e place du classement des médailles avec 10 or, 18 argent et 14 bronzes. Parmi les athlètes français particulièrement en vue, les équipes d'équitation, de boxe ou encore de judo. Au total, 306 titres ont été distribués en 16 jours de compétition, mais certains resteront davantage dans les annales. Éric Mamrut nous proposait lundi matin une sélection des stars de ces Jeux.
Honneur aux mangeurs d'or, les gloutons multirécidivistes à Rio. Celui de la première semaine fut Michael Phelps, la star américaine des bassins a raflé 5 nouveaux titres olympiques et une médaille d'argent, portant son total à 28 médailles, dont 23 en or. Sa compatriote Cathy Ledecky vient-elle de commencer sa moisson. À 19 ans, la nageuse a frappé fort à Rio, avec 4 breloques en or, une en argent et 2 records du monde. Même âge et même bilan pour Simone Biles en gymnastique, 4 médailles d'or et une en bronze pour la tonique américaine. Pas mal non plus le cycliste britannique Jason Kenny, trois fois titré sur la piste du Vélodrome. La première semaine aura vu également le tennisman écossais Andy Murray et le judoka français Teddy Riner conquérir leur deuxième titre olympique consécutif. Quant à la star de la deuxième semaine, ce fut évidemment le roi Usain Bolt. Comme à Pékin et à Londres, le Jamaïcain a signé le triplé, 100, 200, 4 fois 100 mètres, 9 médailles d'or olympiques qui le font entrer définitivement dans la légende. Le Brésil enfin dit au revoir à ses Jeux avec le sourire, après les médailles d'or ce week-end de ses volleyeurs et de ses footballeurs avec Neymar.
RFI. Arnaud Vivian, la revue Charles que vous dirigez, c'est donc un trimestriel, des longs formats sur la politique, joliment illustré. Vous abordez pas mal de thèmes, hein, le racisme dans le numéro qui est en kiosque en ce moment, la justice, la culture, les dynasties en politique, etc. Bientôt un numéro sur la politique et le sport.
On aurait dû le faire là pour les Jeux Olympiques, et puis il y avait l'Euro aussi, mais finalement on s'est dit que les gens avaient besoin d'autre chose, et que la question du racisme, et qui n'est pas la question du racisme en soi, qui est la question du racisme en politique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du racisme dans les partis politiques, était une question beaucoup plus brûlante et intéressante que celle du sport, même si évidemment le sport et la politique, il y a beaucoup à dire. À la fois, ce qui est étonnant avec les Jeux Olympiques, c'est que on est tous émerveillés. D'abord parce qu'on se rend compte que on voit des sports dont on n'a pas du tout l'habitude de voir à la télévision d'ordinaire. Ça, c'est déjà en soi, c'est une grande victoire. J'ai envie de dire pour le sport en général. Et on voit d'ailleurs comment la télévision est finalement pauvre dans sa représentation du sport en temps normal, c'est-à-dire hors Jeux Olympiques. Il n'y a pas de canoë-kayak à la télévision d'ordinaire. Mais ce qui est toujours un peu gênant, c'est que y a quand même eu beaucoup de nationalisme finalement encore aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, dans les Jeux Olympiques, et on l'a bien vu avec le début calamiteux des Français, et il y avait quelque chose là d'un ressentiment nationaliste à la fois chez les sportifs et puis chez les Français qui les écoutaient un peu découragés quand tous ces sportifs se cherchaient des excuses pour ne pas réussir. Voilà, il y a toujours cette idée d'un nationalisme rampant qui est à la fois la beauté des Jeux Olympiques et en même temps sa tristesse, je trouve.
Alors on saura en 2019 si la France et Paris accueilleront les Jeux Olympiques de 2024. En tout cas, les représentants de la candidature ont été très nombreux à défiler à Rio pendant la quinzaine des Jeux. Côté brésilien, on a longtemps été très critique sur la tenue de ces Jeux Olympiques, mais finalement, nous disait notre correspondant François Cardona au lendemain de la cérémonie de clôture, les cariocas en étaient plutôt satisfaits.
Enthousiaste après les dernières médailles d'or obtenues par le Brésil, la presse juge favorablement ces Jeux. Un sentiment partagé par une majorité de Brésiliens. Selon un récent sondage, une majorité les considère comme positifs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines encore. Le ministre des Sports parle de Jeux Olympiques mémorables, malgré des stades souvent à moitié vides et des réseaux de transport parfois défectueux. L'héritage de ces Jeux reste tout autant problématique. Plus de 10 milliards d'euros ont été dépensés pour leur organisation, avec de gros investissements dans les réseaux de transport notamment, alors qu'ils doivent encore être terminés. L'État de Rio s'est déclaré en état de calamité financière en juin. La poursuite des travaux est donc déjà compromise. L'euphorie pourrait ne pas durer, d'autant que le pays s'engage dans un procès très sensible, celui de Dilma Rousseff. Il va commencer devant le Sénat cette semaine. La présidente suspendue de ses fonctions est accusée d'avoir maquillé les comptes publics. La crise politique mise entre parenthèses durant les Jeux Olympiques va connaître d'ici peu un nouveau chapitre, peut-être son dénouement.
Dilma Rousseff, dont le procès en destitution a commencé jeudi, on pourrait en connaître le verdict mercredi prochain, même si a priori l'affaire semble entendue en défaveur de la présidente brésilienne. On va y revenir juste après la pause, le temps de retrouver les infos avec notre invité Arnaud Vivian. À tout à l'heure.
Une semaine d'actualité. François Mazet.
Une semaine d'actualité avec notre invité, toujours Arnaud Vivian, journaliste, critique littéraire, écrivain, rédacteur en chef du trimestriel Charles. Alors Arnaud, juste avant la pause, on parlait du procès en destitution de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne qui pourrait ne plus l'être en milieu de semaine prochaine. Un chef d'État en exercice, renversé par ses anciens alliés pour des accusations de corruption plus ou moins solides, alors qu'eux-mêmes sont particulièrement mouillés, ça pourrait faire un bon roman de politique fiction, ça.
Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Mais il y en a quelques-uns, là. Le coup d'État en Turquie, aussi, une très très belle... Je suis sûr que beaucoup de romanciers, turcs ou pas d'ailleurs, en feront quelque chose.
Le livre que vous avez coordonné, ça s'appelle 2017, l'élection improbable, et il vient de sortir. Alors c'est une jolie couverture, on voit une jeune femme bien habillée jetant vers l'arrière ses longs cheveux blonds dans une posture qui rappelle l'orgasme alors qu'elle glisse un bulletin de vote dans l'urne. Ça fait encore du bien de voter ?
Alors, vous connaissez l'histoire de cette photo ?
Allez-y.
Ben, c'est, en fait, il s'agit de NKM. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été photographiée dans cette position très effectivement orgasmique en train de voter. On l'a un peu transformée, la photo. On y a mis des couleurs, etc. Mais il y a vraiment une base absolument réelle. Ça nous faisait rire, cette idée, voilà, de l'orgasme démocratique. Ce que racontent les 11 écrivains que j'ai sélectionnés pour écrire donc des politiques fiction, c'est simple, hein, il s'agissait d'écrire une nouvelle sur l'élection présidentielle de 2017. C'est assez hilarant, mais c'est pas de l'ordre de l'orgasme. Enfin, c'est une espèce de rire rabelaisien, finalement, par rapport à cette échéance démocratique. Chacun imagine des choses alors extrêmement différentes. Il y en a une de Thomas Legrand, l'éditorialiste politique de France Inter, où il imagine que Nicolas Sarkozy est dans le coma et il a eu un accident de vélo et donc il rate le premier tour de l'élection présidentielle et c'est Isabelle Balkany qui vient lui expliquer ce qui s'est passé. Et c'est d'une drôlerie, d'une férocité aussi. Dans la nouvelle que j'ai écrite, moi, j'imagine que Jean-Marie Le Pen se présente, ce qui est d'ailleurs assez probable, à l'élection présidentielle lui aussi. Sa fille se présente évidemment au nom du Front National, mais lui se présente en son nom propre et il fait 4% au premier tour. Le problème, c'est qu'il disparaît le lendemain. Plus personne ne sait où il est et finalement, le jour du débat entre François Hollande et Marine Le Pen, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous me demandiez mon pronostic, donc c'est eux qui se retrouvent tous les deux au second tour. On retrouve Jean-Marie Le Pen, mort, noyé, dans 50 cm d'eau à la Robert Boulin. Vous voyez, et donc il y a une espèce d'atmosphère comme ça dans chacune des nouvelles qui ont été écrites, qui est un crépuscule rigolard, en fait, de la démocratie.
Donc finalement, pour vous aussi, isoloir, ça rime avec défouloir.
Oui, ça rime avec défouloir, mais oui, mais ce sentiment qu'on a, mais encore une fois, qu'on a un peu partout. Regardez ce qui s'est passé en Autriche. Vous avez vu l'élection présidentielle. Si je puis me permettre, un poil de cul, l'un a été élu et pas l'autre. Et puis finalement...
Il y aura une revanche.
En fait, la démocratie, d'un point de vue quasiment mondial, et vous parliez du Brésil, mais ça rentre exactement dans le même cas de figure, elle dysfonctionne depuis 2000 et l'affaire de la Floride, où tout s'est joué, on ne sait pas trop hein, comment, mais avec la conséquence que l'on sait, c'est que George Bush est élu et c'est la guerre. Donc vous voyez là, on voit un dysfonctionnement démocratique un peu partout, on l'a vu là en Autriche, même aujourd'hui, vous voyez Donald Trump, ce coup de force par rapport au Parti républicain, c'est tout à fait inouï quoi.
Justement, Donald Trump, on va en parler avec notre point hebdomadaire sur la campagne électorale américaine. Alors là aussi, hein, c'est une longue course d'obstacles et dans la dernière ligne droite... La cohérence ne semble pas être le mot-clé. Donald Trump, après avoir passé des mois à promettre qu'il renverrait 11 millions de clandestins chez eux et qu'il construirait un mur à la frontière mexicaine, payé bien sûr par le Mexique, eh bien le mania de l'immobilier semble découvrir que la réalité est un peu plus complexe et surtout que son discours ultra ne lui permettra pas d'être élu. Il a donc affiché cette semaine des positions beaucoup plus tempérées, Jean-Louis Pourtet.
Serait-il possible que l'Amérique soit en train d'assister à l'émergence d'un nouveau Donald Trump, plus mature, plus discipliné, plus humble? Il exprime ses regrets à ceux qu'il a insultés, ses discours sont moins agressifs et moins confus, ses tweets tueurs moins nombreux, il tend la main au noir. Va-t-on maintenant voir le candidat renoncer à son projet le plus cher, renvoyer chez eux en utilisant une force spéciale les 11 millions de clandestins qui vivent aux États-Unis? Depuis sa réunion samedi avec un groupe de latinos, tous les médias américains évoquent la possibilité d'un adoucissement de sa politique migratoire. Interrogée sur CNN, sa nouvelle directrice de campagne, Kellyanne Conway, est restée prudente.
Ce qu'il défend, c'est que la loi soit appliquée, que nous respections les Américains qui cherchent des emplois bien rémunérés et que nous soyons justes et humains à l'égard de ceux qui vivent parmi nous dans ce pays.
Pressé de dire si Trump envisageait de renoncer à renvoyer les clandestins chez eux, sa porte-parole a répondu d'un laconique « cela reste à déterminer ». Un brusque revirement de sa part sur le sujet pourrait décevoir ses partisans.
Arnaud Vivian, Donald Trump, c'est quand même un peu un personnage de fiction aussi.
Ah oui, totalement. Oui, mais en même temps, machiavélique. Parce qu'on voit bien, en fait, le schéma de Donald Trump, c'est que il fallait d'abord gagner le premier round. Et il l'a gagné alors que...
À l'outrance.
À l'outrance, alors que tous les commentateurs pensaient qu'il n'allait pas y arriver. Et il a réussi, et il a obligé le Parti républicain à se ranger derrière lui. C'est absolument une victoire absolument incroyable. Maintenant, il engage un second round et on s'étonne qu'il change de stratégie, mais c'est logique. C'est la deuxième partie du combat. C'est tout à fait logique qu'il change de stratégie et qu'il est d'ailleurs, comme vous venez de le dire, une nouvelle directrice de campagne, comme par hasard, quoi. Donc ce n'est plus la même stratégie. Il va tenir un autre discours. Mais évidemment, tout ça pose une question de cohérence élémentaire. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui changent de discours en fonction des moments et du combat du moment? Je crois qu'il y a une sorte aussi de pragmatisme dont ses électeurs vont lui être redevables finalement. Parce que vous comprenez, tout le monde dit mais c'est affligeant l'idée que Donald Trump puisse être à la Maison Blanche. Mais comment dire, il sera pas seul à la Maison Blanche. Globalement, il y aura quantité d'experts autour de lui. Je me souviens, je vous raconte une anecdote. Je me souviens que lorsque Ségolène Royal se présentait à l'élection présidentielle, je faisais partie d'un club de réflexion comme il y en a tant en France. Et donc on l'avait reçu Ségolène Royal comme ça en privé et on lui demandait mais comment, disons globalement, il y avait une espèce de machisme des gens qui étaient présents et qui disaient comme ça, Ségolène Royal, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le niveau pour être présidente de la République. Et elle disait, écoutez, il y a des experts. Lorsqu'une question est difficile, on demande aux experts. Si les experts sont d'accord, c'est simple. On suit la voie des experts. S'ils sont en désaccord, à ce moment-là, je dois trancher. Mais c'est le seul moment où, finalement, je dois trancher. Dis donc, il y a une espèce de pragmatisme, mais faut pas non plus redouter absolument. Moi, je me souviens, j'ai vécu Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'était un acteur américain de série B. Personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait être président des États-Unis, et il l'a été.
Et en plus, il a laissé une trace dans l'histoire.
Oui, bien sûr.
Semaine d'actualité, François Mazet.
On retourne en Amérique latine avec cette annonce mercredi soir à la télévision colombienne. Le gouvernement et la guérilla des FARC ont trouvé un accord de paix. Après 52 ans de conflit, au moins 220 000 morts, 44 mois de négociations, reste à passer l'écueil du référendum. À Bogota, Marie-Ève Deteuf sur RFI jeudi matin.
La guerre est finie. En écoutant le chef négociateur du gouvernement, Humberto de la Calle, prononcer ces mots mercredi soir à la télévision, plus d'un Colombien a eu les larmes aux yeux. Le conflit armé, essentiellement rural, laisse un lourd bilan, 220 000 morts, plus de 6 millions de paysans déplacés. L'accord négocié à La Havane prévoit tout à la fois un calendrier pour la transformation des FARC en partis politiques et une série de mesures pour construire un pays plus juste. Plus de 8 000 combattants vont déposer les armes dans les mois qui viennent. Mais pour entrer en vigueur, l'accord doit encore être officiellement signé à Bogota par le chef de l'État, Juan Manuel Santos, et par le grand chef des FARC, Timochenko. Et l'accord doit ensuite être soumis aux électeurs, et là, les choses pourraient se compliquer. La droite dure considère en effet que le gouvernement a trop cédé aux FARC et demande la renégociation immédiate de l'accord. Réponse d'Humberto de la Calle, l'accord n'est pas parfait, mais c'est le meilleur accord de paix possible.
L'actualité de la semaine, c'est aussi bien sûr ce tremblement de terre dans le centre de l'Italie avec ce bilan humain qui ne cesse de gonfler depuis l'aube de mercredi. Des centaines de personnes ont été tuées dans les montagnes des Apennins. Selon les mots du maire de la ville la plus touchée, Amatrice n'est plus. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Domiti Piron, moins de 24 heures après le séisme.
Difficile d'accéder à Amatrice. Le flot d'ambulances et de véhicules de secours est incessant sur cette petite route de montagne. Sur place, tout est détruit. Il y a des trous dans les maisons. Le couvent n'existe plus. L'hôpital est prêt à s'effondrer. Mais ce ne sont pas les bâtiments que le maire Sergio Pelozzi déplore.
Non, le dommage, il est moral. Quelqu'un m'a appelé vers 3h30 et m'a dit « Écoute, il n'y a plus de ville. Mais derrière la ville, c'est tout un monde. Et ce monde, il n'existe plus. »
Preuve très difficile pour Giovanni Telquini, 71 ans, sauveteur à la Croix-Rouge.
On a extrait au moins 8 cadavres et 2 personnes vivantes. On se sent détruit parce qu'on a déjà vécu le tremblement de terre de L'Aquila en 2009. Là maintenant, on attend, c'est difficile, mais on garde espoir. Et maintenant, il n'y a que les chiens qui peuvent nous aider.
Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez bouger? Demande le secouriste. On demande le silence. Puis les recherches reprennent et les tractopelles commencent à détruire les bâtiments qui tiennent encore debout. Il n'y a plus d'électricité, mais sur la colline en face, une lumière, celle d'une croix illuminée.
La frontière Turquie-Syrie doit être entièrement nettoyée du groupe État islamique, c'est ce qu'a dit cette semaine le ministre turc des Affaires étrangères. Pour Ankara, c'est l'organisation djihadiste qui est à l'origine de l'attentat suicide qui a fait 54 morts samedi dernier lors d'un mariage à Gaziantep, ville proche de la frontière syrienne. Depuis, des chars turcs sont entrés en territoire syrien pour reprendre notamment la ville de Jarablus, tenue depuis 3 ans par les djihadistes. Le groupe État islamique est la première cible de cette intervention, mais pas la seule. Comme nous l'a expliqué Daniel Valo, la Turquie a également pour ambition de réduire le territoire des Kurdes syriens dans le nord du pays.
C'est un objectif explicite de cette intervention turque en Syrie. Certains observateurs estiment même que c'est la principale motivation de l'opération baptisée « Bouclier de l'Euphrate ». Car Ankara veut réduire le plus possible l'expansion des combattants kurdes qui ont profité du soutien américain ces derniers mois pour gagner de nouveaux territoires au détriment de l'organisation de l'État islamique. Ce matin, les autorités turques ont d'ailleurs accru la pression sur les Kurdes de Syrie en leur demandant de se retirer à l'est de l'Euphrate, ajoutant que la Turquie avait tous les droits d'intervenir s'il ne le faisait pas. Alors pourquoi demander ce retrait à l'est de l'Euphrate? Eh bien parce que de facto cela empêcherait les Kurdes de Syrie de contrôler la quasi-totalité de la frontière entre la Syrie et la Turquie. En outre, la Turquie pourrait constituer cette zone tampon qu'elle réclame depuis des années dans le nord de la Syrie, un projet qu'elle était la seule à défendre et qu'elle pourrait imposer par la force à la faveur de cette intervention.
Sept jours en Afrique. L'actualité africaine, c'est bien sûr le jour J au Gabon. On vous en parle toute la journée sur RFI. Les Gabonais se rendent aux urnes et on a pu entendre toute la semaine leurs doléances sur nos antennes.
Ce que j'attends du futur président, c'est améliorer les conditions de paiement des opérateurs économiques. La dette intérieure est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait?
Il faut qu'on puisse construire des routes dignes de ce nom.
Le premier problème, c'est l'insécurité. Il faut ratisser au maximum, le plus rapidement possible, le banditisme. Deuxième problème, il faut quand même rétablir la justice. Troisième problème, il y a toujours le tribalisme.
Qu'on fasse l'école cadeau, qu'on fasse les hôpitaux. Les femmes accouchent au sol. Que les pharmacies soient moins chères, que l'hôpital soit moins cher. Qu'on enlève les crimes rituels et qu'on essaye de condamner les commanditaires.
Monsieur le Président, pensez à l'accès au crédit pour les femmes. Elles ont des entreprises, elles ont du mal à décoller, donc il faut qu'on ait des structures financières qui nous accompagnent dans ce sens.
On vit très mal au Gabon. On vit très mal, il n'y a pas de route, il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'éducation.
Les jeunes qui sont au chômage, là, ils cherchent des emplois, il faut créer des emplois.
La politique, là, on est fatigué de ça, quoi. Tous, c'est la même chose. Je ne sais pas vraiment si celui qui va venir va changer quelque chose. Donc, je dois avoir mon argent chaque fin de mois, c'est tout.
Voilà les Gabonais impatients au micro d'Yves Laurent Goma dans les rues de Libreville cette semaine. Ils diront donc aujourd'hui s'ils souhaitent poursuivre avec Ali Bongo cette année de plus ou s'ils lui préfèrent Jean Ping, vieux routier de la politique, ancien pilier du régime et accessoirement ex-beau-frère de l'actuel chef de l'État. Arnaud Vivian, quand on parle du Gabon, on pense forcément aux relations franco-africaines, voire à la France-Afrique, qui est sur le déclin mais qui a encore quelques survivances. Est-ce qu'on peut être un président français de la Ve République sans avoir un tropisme africain?
Non, il faut... Mais on voit bien la perte d'influence de la France en Afrique. À la fois, il y avait quelque chose dans l'idée de la France-Afrique qui n'était pas non plus... vous voyez, les réseaux Jacques Faucard, etc. C'est pas exactement ce qu'on a fait de plus beau et de plus honnête. Mais en même temps, il y a eu une perte d'influence face aux Chinois, face aux Américains aussi, parce qu'il y avait beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'orgueil dans la position française par rapport à l'Afrique. Je me souviens, par exemple, au Maroc, des Marocains m'expliquaient que les diplomates américains parlaient arabe. Les diplomates français s'en sont jamais souciés. Ils parlaient français.
Trop de paternalisme.
Trop de paternalisme. Et évidemment, tout ça a mal tourné, quoi, on peut dire. Et il y a une perte d'influence qui est dommage, dommageable pour l'Afrique, dommageable pour la France. Et en même temps, si ça peut assainir aussi les relations françaises avec l'Afrique, peut-être aussi pas plus mal.
On a entendu l'électeur gabonais, enfin un des électeurs gabonais dire « il y en a marre, on ne sait pas si le prochain va changer quoi que ce soit, c'est blanc bonnet et bonnet blanc finalement ». Ça nous renvoie aussi à notre actualité,
oui,
à nous.
Oui, exactement, effectivement. Mais comment dire, c'est pas normal qu'en France on en soit à cette désillusion démocratique-là. Franchement, là, il y a eu un problème qui m'inquiète énormément, quoi. Encore une fois, je pense que les institutions ne fonctionnent plus et qu'il faut tout revoir le système démocratique avant que ça n'explose.
C'est un problème de système, selon vous, ou un problème de mentalité de Français trop repliés sur eux-mêmes et qui ont peut-être plus cette visée universaliste, on va dire?
Oui, mais ça, c'est le fait de la mondialisation qui fait que les rapports, géographiques sont plus de cet ordre-là. Il n'y a pas la France comme ça, le leader mondial, même si nous sommes toujours cinquième ou sixième puissance mondiale, et d'un point de vue militaire, n'en parlons pas. Donc, mais la mondialisation a fait que, heureusement, les organisations ne sont plus les mêmes d'un point de vue territorial. Donc, on a retrouvé notre véritable dimension, j'ai envie de dire, mondiale. Mais ce qui manque finalement, là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la jeunesse finalement.
On est un vieux pays.
Voilà, on est un vieux pays qui n'arrive pas à se sortir de son passé. Et le fait est que ce qui est décidé aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, mondial, par rapport à la France, c'est d'en faire un vieux pays touristique aussi. Hein. C'est ça notre vocation, alors que on a été un grand pays industriel. Et c'est ça qui me désespère.
Arnaud Vivian, vous parliez justement de l'implication militaire française à l'étranger, de sa puissance militaire, notamment au Mali. Et à Bamako, cette semaine, on a suivi avec attention ce procès d'un nouveau type qui s'est tenu de lundi à mercredi devant la Cour pénale internationale, celui d'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Ce Malien a présenté ses excuses et plaidé coupable de crimes de guerre pour la destruction de 10 bâtiments classés à l'UNESCO du patrimoine de Tombouctou. C'était lors de l'occupation de la ville par les djihadistes début juillet 2012. Laura Martel a assisté aux audiences à La Haye.
Avec application et solennité, Al-Mahdi lit une déclaration dans laquelle il demande pardon aux Tombouxiens, à son pays et à l'humanité. Ce que le procureur lui reproche, d'avoir planifié la destruction des mausolées avec les chefs d'Acmi et d'Ansardine, puis dirigé et participé à toutes les phases de la mise en œuvre de ce crime. Malheureusement, tout cela est véridique, admet-il. Des regrets assortis d'un semblant d'explication.
À l'époque des événements, j'étais sous l'emprise d'une bande de leaders et de figures emblématiques d'Al-Qaïda et d'Ansardine. J'avais cédé à leur pression, à leur tentation, j'avais été comme emporté par une forte tempête de sable qui avait entraîné dans son sillage de nombreux oulémas du pays.
Ces regrets sont-ils sincères ou suscités par l'accord passé avec l'accusation, qui a en échange de ses aveux contre-requérir de 9 à 11 ans de prison quand la peine maximale encourue est de 30 ans? Sincère ou non, Lala Touré de l'Association malienne des droits de l'homme estime qu'il n'en a pas fini avec la justice.
Je ne peux pas affirmer que ce soit des vrais remords, je ne sais pas. En soi, c'est une bonne chose qu'ils s'excusent, qu'ils reconnaissent les faits, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue l'objectif principal, qu'ils soient jugés par un procès équitable et que nous souhaitons qu'ils soient aussi poursuivis pour d'autres crimes commis dans le nord du pays, et notamment les crimes sexuels.
La MDH et d'autres ONG ont en effet déposé une plainte en 2015 à Bamako visant 15 personnes, dont Almadi, pour crimes contre l'humanité. Le message important, c'est qu'avec ce procès, les criminels savent qu'ils devront rendre des comptes à Bamako ou ailleurs, conclut-elle.
Voilà, verdict attendu le 27 septembre. Le site d'information burundais Iwachu, le dernier organe d'information libre dans ce pays, est en noir et blanc depuis mardi matin. Cela fait un mois que l'un de ses journalistes, Jean Bigirimana, a disparu. Personne ne sait où il se trouve. L'enquête de la police est au point mort et l'espoir est mince de le retrouver. Le directeur d'Iwachu, Antoine Kabourae, s'est montré très pessimiste sur nos antennes, mais il assure que son journal poursuivra sa mission.
C'est une manière de commémorer un mois sans Jean. On garde toujours un petit espoir. Quand on n'a pas vu le corps de la personne, on se dit peut-être il va revenir, peut-être... Il y a toujours ce doute qui est d'ailleurs très difficile à vivre, qui est difficile à gérer pour la famille, pour les collègues, parce qu'on n'est pas sûr, on est dans l'incertitude. C'est très pénible, et c'est très triste aussi, mais on se dit qu'il faut rester debout et ne pas flancher. C'est une manière pour nous aussi de rendre hommage à Jean en continuant le travail. Jean disparu, il était journaliste. C'est terrible, même, vous voyez, je suis en train de parler de lui au passé. Jean est journaliste. Si nous, on capitule, Jean aura disparu pour rien. En continuant le travail, c'est une manière de résister.
Voilà, le site d'Iwachu, toujours en noir et blanc. On en revient aux Jeux Olympiques, mais vu d'Éthiopie, l'équipe est rentrée de Rio dans la semaine, mais sans le médaillé d'argent du marathon. Feyissa Lilessa va prendre le chemin de l'exil après son geste éminemment politique. À l'arrivée de la course, dimanche dernier, il a croisé les bras, reprenant le geste symbolique des manifestants Oromo et Amara, qui depuis novembre dernier font face à la répression policière des autorités. L'athlète de 26 ans avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays de peur d'être tué. En tout cas, en Éthiopie, il est vu comme un héros pour son geste plutôt que pour sa performance olympique, nous disait cette semaine la correspondante de RFI à Addis Abeba, Justine Boulot.
À Addis Abeba, on évite d'en parler en public de peur d'être épié. Feyissa Lilessa a marqué les esprits par son geste de soutien aux manifestations de l'ethnie Oromo, dont il est lui-même issu. Mais les Éthiopiens ont été privés de la scène en direct puisque la chaîne de télévision d'État a censuré les images en clôture des Jeux Olympiques. Sur les réseaux sociaux, les Éthiopiens se lâchent plus facilement. Un homme courageux, dit-on, jusqu'à comparer son geste à ceux des athlètes des JO de Mexico en 68 qui, sur le podium, avaient levé le poing, symbole des Black Panthers. Si je rentre en Éthiopie, peut-être qu'ils vont me tuer ou m'emprisonner. La déclaration poignante de l'athlète à Rio a porté sur la scène internationale les révoltes éthiopiennes réprimées dans le sang. Pourtant, le gouvernement avait déclaré qu'il serait le bienvenu et que ses opinions politiques étaient respectées. Mais dans un contexte de répression violente, personne en Éthiopie n'est surpris de son absence. Un financement social organisé par la diaspora, censé l'aider à s'expatrier, a déjà levé plus de 120 000 dollars.
On termine cette édition avec un sujet plus optimiste sur l'Afrique qui avance avec ses hubs technologiques qui se multiplient sur le continent. Conclusion d'un rapport d'un cabinet d'études, il y en aurait 314 contre à peine 120 l'an dernier. Ces lieux où se lancent et se côtoient les startups de demain, ils sont donc en pleine explosion sur le continent. Ils sont très récents, ils ont 4 ans de moyenne d'âge, mais ils sont aussi mal répartis, nous disait Thomas Giraudeau.
5 pays africains se partagent la moitié des hubs comptabilisés par GSMA Intelligence. L'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui en compte 54 à elle seule. Derrière, le Ghana, l'Ouganda, la Tunisie et le Sénégal tirent leur épingle du jeu. Les autres pays, de l'Algérie à Madagascar, en comptent moins de 5 chacun. Car la naissance de ces hubs technologiques est d'abord liée à la qualité des réseaux téléphoniques, à ceux de l'internet câblé ou via Wi-Fi, indispensable pour les startups du digital qui se lancent et se développent portes dans ces hubs. Sur ce point, les opérateurs mobiles ont bien compris l'intérêt d'investir à l'image du français Orange ou du sud-africain MTN. Le premier a lancé un incubateur à Niamey, au Niger, et le deuxième a implanté deux espaces de coworking à Bouéa et Douala, sur la côte camerounaise. Le mobile, outil indispensable pour les nouveaux entrepreneurs, c'est en Afrique centrale que le cabinet GSMA compte le moins de hubs, des pays qui comptent seulement un tiers d'abonnés au réseau mobile.
Arnaud Vivian, on parle nouvelles technologies, start-up, incubateur, et ça me fait penser que dans votre livre 2017, l'élection improbable, eh bien dans l'une des nouvelles, on évoque un robot qui rédige des discours politiques, finalement à une époque où les éléments de langage sont partout. Ça ne semble pas si improbable que ça.
Oui, c'est une nouvelle d'Antoine Bello, qui est un romancier qui vit aux États-Unis, donc qui est très au courant de ces nouvelles technologies. Il se trouve que cet ordinateur existe. Il y a un scénario de science-fiction qui a été écrit grâce à un ordinateur. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a rentré tous les livres de science-fiction dans sa mémoire, puis il travaille. Mais du coup, il travaille sur les clichés. Là, l'histoire est très amusante. Sa nouvelle, c'est Marine Le Pen est en train de donner un discours à Strasbourg. Mélenchon est à Marseille, et il y a une journaliste du Monde qui s'aperçoit qu'en fait c'est le même discours qu'ils récitent l'un et l'autre. Et elle mène l'enquête et elle découvre qu'effectivement c'est un logiciel, une entreprise qui a vendu l'idée de fabriquer des discours, on rentre des mots-clés, etc. Donc c'est une allégorie finalement sur ces espèces d'outils de langage. Vous voyez bien que maintenant, la distribution le matin, c'est les outils de langage auprès des conseillers, des candidats, et qui vont et répéter exactement sur toutes les antennes, la même chose. La communication est en train de l'emporter sur l'expression. C'est ça aussi le malheur aujourd'hui de la politique. Ils sont obligés de répondre aux sollicitations. Alors c'est vrai qu'il y a des mouvements en boucle, les chaînes d'information en continu fait que on doit parler tout le temps. Et du coup, ce qui manque finalement en politique, c'est le silence. Et je crois que ça serait la première chose, et on va être submergé de paroles, au lieu d'avoir un peu le silence qu'il faudrait avoir pour réfléchir, tout simplement.
Merci Arnaud Vivian, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu, journaliste, critique littéraire, écrivain. Le livre que vous avez coordonné, 2017, l'élection improbable, et puis bien sûr, tous les trimestres, la revue politique Charles, le numéro avec le racisme en politique, est toujours disponible. Merci.
Merci. Littéraire.